Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la JT du local. Nous sommes aujourd'hui le lundi 15 novembre et je suis ravie de vous accueillir pour une semaine d'émission entière cette fois-ci. Et oui, pas de jour férié prévu au programme. On va parler aujourd'hui de chasseurs de fossiles lavallois. Vous ne les connaissez peut-être pas et pourtant, ils ont participé à la découverte, à l'identification de plus de 130 fossiles. On parle de Daniel et Pauline Eulert qui ont leur consacre une exposition au Zoom en ce moment. Ça va être l'occasion de la parcourir un petit peu. Et puis, on vous donne aussi un coup de cœur littéraire. Ce sera celui de Christophe Demiranjou. Et on parle également, on commence un nouveau feuilleton cette semaine autour du Lab Lab, le premier Fab Lab pour les personnes en situation de handicap. On va vous expliquer ce qu'ils font et comment ça fonctionne. Mais d'abord, on fait un petit point sur l'actualité avec des états généraux de la santé prévus en 2022. C'est une annonce de la matinée d'Olivier Richefou, le président du conseil départemental. Il a annoncé ce matin en session plénière donc l'organisation de ces états généraux de la santé qui auront lieu à la fin du premier trimestre, selon lui, en collaboration avec notamment l'Ordre des médecins de la Mayenne. Et puis ce matin, sur les routes mayennaises, plusieurs accidents, notamment un à route de Gré-en-Bouère à Mélay-du-Maine. Il s'est produit vers 9h30 à la Georges-Thiers sur la départementale 14. Une voiture seule en cause a fait plusieurs tonneaux. Son conducteur, un homme âgé de 25 ans, a été légèrement blessé et transporté au centre hospitalier de Laval. Et puis deux piétons ont été aussi renversés. Un à Soulgé-sur-Ouette, une femme de 71 ans. Ça s'est passé vers 9h dans la Grande Rue. Elle a été transportée au centre hospitalier de Laval. Et puis, je vous le disais, un autre piéton a été renversé à Laval, lui, un peu plus tôt, vers 6h30 ce matin, rue de Paris. Il a été lui aussi transporté à l'hôpital lavallois. Un petit peu de football et ça passe pour Laval en Coupe de France. Les Tangos qui ont donc gagné 2-0 contre Luçon samedi soir. Retour du championnat de national lundi prochain. Ce sera à 20h45 au stade Francis Lebasserre contre Concarneau. On fait une petite pause en musique avec Anderson East avec Sorry You're Sick. Et on parle fossiles tout à l'heure. Andersen East, Sorry You're Sick, dans l'agité du local sur l'autre radio. Comme promis, juste avant cette petite pause musicale, on va partir à la rencontre de chasseurs de fossiles lavallois. Leur nom ne vous dit peut-être rien, pourtant ils ont participé à la découverte et à l'identification de plus de 130 nouvelles espèces à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Leur nom, justement, Daniel et Pauline Euler, ils sont paléontologues et géologues. Une nouvelle exposition au centre scientifique Le Zoom à Laval leur est dédiée. Pas franchement nouvelle, en fait, c'est le retour d'une exposition qui avait déjà été prévue l'an passé, mais que personne, malheureusement, n'avait pu voir à cause de la crise sanitaire. Alors, petite visite guidée avec l'un des salariés de la réserve du musée.
Alors je suis Roch-Alexandre Benoît du musée des sciences, je suis assistant de conservation du coup au musée.
Une nouvelle exposition, en tout cas le retour d'une exposition, l'exposition Euler, c'est ça. Est-ce que déjà il y a eu des changements par rapport à l'exposition qui était proposée l'an dernier ?
Alors il n'y a pas eu beaucoup de changements pour le coup, c'est exactement la même chose. Il y a peut-être une ou deux pièces qui ont changé, notamment dans les minéraux, parce qu'il y en a eu quelques-uns qui ont été prêtés pour une autre exposition au Mans, au musée Vert. Donc, et je crois que ça doit être à peu près tout ce qu'on a changé.
Malheureusement, cette exposition, elle n'a pas pu être visible du public l'an dernier, c'est ça ? Donc là, l'idée, c'est qu'enfin, on puisse en profiter ?
C'est ça, exactement. Donc là, elle a débuté donc, le 3 novembre et elle se termine donc en mars, donc le 27 mars. L'entrée en elle-même est gratuite. Généralement, pour entrer au Zoom, il y a aussi l'autre exposition et là, ça va être 2 euros. Ce qui est assez modique, on va dire, pour voir deux expositions comme ça.
Pour ceux qui ne connaissent pas du tout Daniel et Pauline Euler, pourquoi leur consacrer une exposition entière ? Il y avait même, j'imagine, encore plus à faire, mais là, en tout cas, avoir choisi de se focaliser sur ces deux scientifiques.
Alors, c'est que ces deux scientifiques-là, en fait, ont une renommée internationale, même si ici, ils ne sont pas forcément très très connus, parce qu'ils allaient travailler essentiellement sur de la paléontologie et sur un groupe particulier d'organismes qui s'appelle les brachiopodes. Donc après, ils ont vu pas mal de choses autres que ces brachiopodes-là, mais ils se sont vraiment spécialisés là-dedans, et donc ils allaient recevoir des échantillons d'un petit peu partout à travers le monde pour les identifier, et ensuite ils allaient renvoyer ces échantillons. Mais ils ont également trouvé beaucoup d'échantillons directement en Mayenne. Donc il y a des brachiopodes certes, mais il y a également des coraux, il va y avoir des oursins. Alors les oursins, un petit peu moins souvent quand même. Il va y avoir également donc des bivalves, des trilobites, beaucoup de trilobites. Donc ils étaient vraiment très généralistes en soi, mais en même temps très spécialisés dans un groupe d'organismes particuliers.
Ils en ont trouvé beaucoup en Mayenne, à quels endroits par exemple ?
Alors du côté par exemple de Saint-Germain-le-Fouillou, il y a beaucoup de choses, la Baconnière également, mais vraiment un petit peu partout, plus le nord, on va dire, de Laval. Là, il y a vraiment beaucoup de choses, et en fait, c'est parce que c'est en lien avec des sédiments qui se sont déposés à travers toute la Bretagne, donc il y a un petit peu plus de 250 millions d'années. Donc c'est des roches assez anciennes, des spécimens assez anciens, c'est peut-être aussi pour ça qu'ils sont assez peu connus, parce que c'était il y a assez longtemps, finalement, et c'est des spécimens qui sont pas souvent mis en avant. Donc c'est un petit peu dommage, mais voilà.
C'est l'occasion justement en tout cas d'en parler. Pourquoi ils cherchaient en Mayenne ? Parce qu'ils étaient installés ici en Mayenne, c'est ça ?
Exactement. Les deux sont lavallois et en fait ils étaient voisins de palier avant d'être mariés ensemble. Donc ils se sont mariés assez jeunes. Lui il est né en 1849 et elle en 1954. Et je crois qu'elle, elle était tout juste, je vais dire majeur, mais ce serait majeur maintenant. Mais à l'époque elle était mineure en fait quand ils se sont mariés. Donc elle devait avoir 18 ans je crois. Et en fait, à partir de là, ils se sont rendus compte que tous les deux, finalement, en fait, aimaient beaucoup la paléontologie. Et en fait, ils se sont mis à travailler ensemble, en fait, sur le domaine. Alors que lui, du coup, il avait déjà un petit peu travaillé sur le côté scientifique, plutôt la préhistoire et la minéralogie. Et à partir du moment où elle a été là, il s'est mis également beaucoup plus à la paléontologie. Et même dans les caractères, apparemment, ils se complétaient beaucoup. Lui était assez timide, finalement, assez en retrait. Et elle était beaucoup plus... on va dire explosive au niveau caractère, mais très gentille, très courtoise tout de même. Et donc apparemment c'était vraiment une force motrice en fait dans le couple pour justement avancer dans les études scientifiques.
Il y a combien de fossiles ici qu'on peut retrouver et qui représentent combien d'années de recherche ?
Alors pour le coup, donc on va dire qu'ils ont commencé dans les années 1870. Pauline, elle est morte en 1911. Donc elle a travaillé tout du long en fait finalement on va dire à partir de 1875-76 à peu près. Et lui, donc, Daniel, il a commencé donc dans ces années-là également, et il est mort, lui, en 1920. Mais il a arrêté toutes les études paléontologiques au moment de la mort de sa femme. Et à partir de là, il s'est consacré à la restauration du vieux château, et également donc à des pans plus archéologiques, en fait, finalement, de ses études.
L'histoire du château ici à Laval est aussi liée à son histoire ?
Exactement. C'est très très lié en fait à l'histoire de ce couple. Et lui, en fait, il a même demandé à être emporté juste avant sa mort dans l'une des salles du vieux château pour pouvoir y mourir. C'était vraiment le rêve de sa vie que ces salles-là deviennent en fait un musée des sciences, enfin un musée d'histoire naturelle plus largement, à part entière. Là, c'est plus une histoire de contraintes dues à la Première Guerre mondiale, où justement, donc il y a eu des gros soucis d'apport de matériaux, de main-d'œuvre pour pouvoir justement restaurer les salles. Et donc, ça a pris pas mal de retard. Et finalement, il y a une seule des pièces qui a pu être restaurée avant sa mort. Et dans cette pièce, par contre, il y avait justement quelques spécimens qui étaient exposés.
Parmi les pièces qui sont exposées, on peut en choisir quelques-unes qui représentent un peu leur travail.
Alors, j'ouvre un petit peu, comme ça je peux vous les montrer de plus près. Donc là, c'est ce qu'on appelle un Trinucleus burei. Alors en fait, il y en a plusieurs. Et ce sont les spécimens qui ont été utilisés pour une publication de 1895. Donc la publication, c'est celle qu'on peut voir juste derrière. Et chacun des spécimens, en fait, est présent, du coup, dans cette exposition. Donc on les a replacés à peu près comme sur la page d'origine. Et donc on peut voir justement donc ce qu'on appelle la glabelle. Donc c'est l'équivalent de la tête de l'animal. Donc là c'est un trilobite avec justement les épines qu'on va qualifier de génales. Donc en fait génales c'est pour la joue. Donc ce sont des épines qui partent des joues et qui font toute la longueur du corps. Donc elles sont vraiment très très longues. Et sur cette glabelle, donc sur cette tête, on peut voir en fait comme plein de petits points. Qui vont consteller en fait tout l'avant de la tête. Donc ça c'est un caractère qui est assez particulier à cette espèce. En tout cas à ce genre, Trinucleus. C'était compliqué de les retrouver dans les collections parce qu'il n'y avait pas forcément d'inventaire à l'origine en fait de ces spécimens-là. Mais du coup là, dans les 20 dernières années, il y a eu un gros travail sur l'inventaire des collections, notamment donc par Jérôme Tréguier, le directeur finalement du Musée des Sciences, et moi depuis quelques années maintenant. Mais en fait finalement, les spécimens sont très reconnaissables, très faciles à reconnaître, notamment vu la qualité en fait finalement de la représentation dans l'article. Donc quand on voit par exemple ce spécimen là où il y a la moitié de la tête et une épine génale, ben en fait quand on voit l'image finalement sur la publication, on reconnaît directement le spécimen. Et quand on regarde de bien près, on va voir exactement les cassures qu'il va y avoir sur la roche et on va les retrouver finalement sur cette représentation dans l'article. Voilà, c'est pour ça, c'était compliqué et en même temps assez simple. Donc là, ce sont des cousins en fait des oursins. Donc ça y paraît pas au premier abord, hein. Mais en gros c'est comme s'il y avait une masse centrale composé de plusieurs petites formes polyédriques, on va dire, des hexagones et ainsi de suite. Et finalement, quand on regarde de près, on va voir sur le bas un truc qui va être divisé en 5 parties. Et ça va rappeler la symétrie en fait qu'on a chez les oursins, divisé en 5. Et ensuite, on va voir de cette espèce de grosse masse, des espèces de bras finalement qui vont partir. Et donc ces animaux-là, ça vit toujours maintenant. Ceux-là, ils ont près de 300 millions d'années. Ça fait quand même un groupe assez ancien. Mais ça vit toujours maintenant et on peut les retrouver dans les mers un petit peu chaudes. C'est ce qu'on appelle les lys de mer également. Donc généralement, c'est très coloré et ça vit librement dans l'eau. Donc c'est-à-dire qu'ils ne sont pas fixés au fond de l'eau. Donc ils vont se déplacer dans l'eau en agitant en fait leurs bras. Et donc c'est très très joli à voir sur des vidéos. Donc là, dans les espèces fossiles que l'on connaît, certaines en fait allaient avoir ce qu'on appelle un pédoncule, qui allait là pour le coup les fixer en fait au fond, au substrat marin. Donc c'est vraiment, il y avait pas mal de types de vie différentes finalement. Donc là, c'est ce qu'on appelle un Tylacocrinus vagnotti, et du coup c'est eux qui l'ont décrit cette fois-ci en 1878. Donc là, c'est un petit peu plus ancien. Et pour le coup, là, Daniel était tout seul sur cette publication-là. Alors du coup, il y en a près de 130. Donc ce qui fait quand même pas mal pour un couple tout seul en termes de description d'espèces. Alors maintenant, avec les révisions taxonomiques, il y en a un petit peu moins, mais c'est pas très très loin quand même des 110-120 maintenant. Mais eux-mêmes à l'époque, c'était donc 130 espèces à peu près décrites. Une sacrée masse de travail. Une sacrée masse de travail, parce qu'il faut réunir toute la bibliographie concernant les taxons proches, finalement, vérifier que cette espèce-là n'existe pas déjà d'une manière ou d'une autre sous un autre nom, et s'assurer que là, il y a bien des caractères propres à ces spécimens-là qui permettent de dire que c'est bel et bien une nouvelle espèce. Donc ça représente quand même un gros travail de recherche derrière. Alors, les cahiers, certains, en fait, étaient présents avec les collections. Il y en a certains qui nous ont été prêtés donc, par les bibliothèques de Laval. Et il y en a d'autres qui ont été prêtés, notamment par exemple par le musée de Rennes, qui en fait... En gros, il y a une partie de la collection bibliographique d'Euler qui a été léguée à différentes personnes, et notamment à des personnes de Rennes. Et donc, certains des articles nous sont revenus en fait au bout d'un moment, mais il y en a certains qui étaient déjà en fait ici. Donc dans ce qu'on appelait la bibliothèque Euler, avec énormément de publications réunies en fait par le couple et également écrites par le couple. Non, il n'y a clairement pas tout ici. On a réuni environ 70 pièces différentes là pour l'exposition, un petit peu plus parce qu'il y a certains endroits où on va avoir plusieurs spécimens pour une même espèce, notamment là pour la paléontologie, mais en tout la collection Euler ça représente pas très loin de 20 000 spécimens. Donc ça fait quand même une belle collection, pour le coup. L'essentiel est ici au Musée des Sciences. Il y a quelques spécimens qui sont partis parce qu'on les a prêtés, notamment à des chercheurs qui travaillaient sur certains des groupes d'organismes étudiés par ce couple. Mais l'essentiel est toujours ici.
Et toujours conservé précieusement dans la réserve du musée, ou bien visible dans cette exposition, en place jusqu'au 27 mars prochain. Elle est ouverte selon les horaires du Zoom, ouvert donc, du mardi au dimanche. On va parler coup de cœur littéraire et polar, en tout cas dans quelques instants, juste après Anderson .Paak. Et oui, c'est le thème du jour, toutes les musiques sont des groupes avec Anderson dedans. Anderson .Paak donc avec Tint.
I've been feeling kinda cooped up. I'm tryna get some fresh air. Hey, well, you got the roof out. You know it never rains here. Hey, you ain't got a flash when you're taking your picture. You ain't gotta draw no extra retention. Paparazzi wanna shoot ya. Niggas dying for less out here. I've been in my bag and way, tryna throw a bag in the safe. Gig and turn, churn, and bass. Baby, man, I want some baby names. Niggas crying for less out here.
Showing out for the cameras.
Right.
Fuck, I'm doing fish bowling.
Sorry.
100,000 on the passenger. Bitch, I'm Kendrick Lamar. Respect me from afar. I was made in this image. You call me a god. Everybody in attendance. I'm about to perform. Everybody get offended by the shit I got on. Like, can you buy that nigga 900 horse? Can you drive that nigga a G5? Can you fly that nigga? I need 10 so I can look at the snakes and poses.
I need 10.
Cause bomb head is non-disclosure.
I need 10.
So I can live with a peace of mind without niggas taking a piece of mind. And peace be still and not do fine. So fuck a fix-it ticket. You pull me over and might see one of your bitches.
Round that open strip. I need tents. Windows tents.
I need tents.
No windows tents. I can't be flying down that one tent. With the baggage in my whip.
She wanna hold me like a ransom,
but y'all don't know you.
But the money keep me running.
Anderson Paak, Tints dans l'agité du local sur l'autre radio. Nous sommes lundi et c'est le retour, le bonjour, donc aujourd'hui lundi, de notre chronique littéraire avec Christophe, avec à l'honneur aujourd'hui un auteur de polar qui se met au roman d'aventure.
Emily Ranjou, à Château-Gontier, vous présente chaque semaine son coup de cœur littéraire. Pour les grands et les petits.
Bonjour, je vais vous présenter le nouveau livre de Victor Del Arbol qui s'intitule « Avant les années terribles » aux éditions Actes Sud. Pour les connaisseurs de polar, cet auteur espagnol est vraiment l'emblème du polar noir puisque depuis des années, il signe des romans qui sont traduits dans le monde entier et toujours aux éditions Actes Sud. Mais cette fois-ci, Actes Sud a décidé de sortir ce livre pour ne pas le placer dans les policiers, mais dans la littérature générale. Et Actes Sud a très bien fait, parce que voici un roman historique, un roman d'aventure et un roman extrêmement émouvant. Tout commence d'abord à Barcelone, où nous allons découvrir notre héros, notre personnage principal qui s'appelle Isaïe. Il est noir, il travaille en tant que réparateur de vélo, il a trouvé un petit boulot à Barcelone, il vit avec une femme dont il est très amoureux, d'ailleurs ils attendent un bébé. Mais cet homme a un passé extrêmement terrible. Cet homme est d'origine ougandaise et lorsqu'il va être approché à Barcelone par un ex-compagnon de lutte qu'il a connu pendant des années en Ouganda, sa vie va à nouveau changer. Cet homme qui vient d'inviter Isaïe à retourner en Ouganda, c'est pour essayer de participer à une conférence qui va améliorer la situation culturelle, historique et politique de l'Ouganda et essayer d'instaurer cette fameuse paix après des années de guerre civile qui ont ensanglanté le pays. Isaïe n'a pas envie de retourner en Ouganda. Il en a tellement des cauchemars encore qu'il sait que ce sera terrible. Et pourtant, on va le convaincre d'y retourner. Et à peine aura-t-il mis le pied dans son pays d'origine avec sa femme, qu'il sait que le cauchemar va reprendre, puisque nous apprendrons qu'Isaïe est un de ses anciens enfants soldats et c'est toute l'histoire de ce gamin jusqu'à l'âge adulte que nous allons découvrir dans son pays avec ce qu'il a pu faire, ce qu'il a pu commettre, ce qu'il a pu subir. C'est un livre passionnant. Dès qu'on ouvre les premières pages, on sent qu'on rentre dans un grand roman avec du souffle, avec du suspense, avec de l'ambition et puis avec beaucoup d'étonnement. Certes, c'est un livre noir, c'est un livre dur, mais c'est un livre qui nous tient en haleine et c'est ça qu'on aime à la librairie. Je vous conseille cette lecture du dernier Victor Del Arbol qui s'intitule « Avant les années terribles » et c'est bien sûr chez Actes Sud.
Retrouvez Aime lire en joue, 10 places Paul Doumer, à Château-Gontier, et sur l'autre radio.
Et comme d'habitude, sur l'autreradio.fr, notre site internet. Et puis, une nouvelle chronique inédite pour les plus matinaux d'entre vous, demain à 7h30. Eux fabriquent des prothèses pour les personnes en situation de handicap. Les bénévoles de l'association Lablab à Laval se mobilisent depuis près de 2 ans. Grâce à leur machine de fabrication en 3D, ils peuvent répondre aux besoins exprimés par ces personnes en situation de handicap. Lablab est le premier Fab Lab orienté handicap en Mayenne. Retour en arrière sur la création de l'association et les premiers projets avec son président Fabien Coacheux.
À une époque, j'accompagnais les personnes en situation de handicap dans leur déplacement quotidien, en fait. La discussion est venue sur leurs besoins, en fait, des besoins d'aide technique et d'objets du quotidien qu'ils ne trouvaient pas sur le marché. Ayant une formation de designer, j'aurais dit, sur un besoin spécifique, j'ai dit à la personne, moi, je peux modéliser votre besoin. Elle avait besoin d'un joystick pour un fauteuil roulant. Et donc, je lui ai modélisé le joystick en 3D, puis je l'ai imprimé en 3D. Elle peut aujourd'hui l'utiliser grâce à ce joystick adapté à sa main, à sa pathologie. Voilà. Et puis après, voilà, les projets ont suivi, les bénévoles aussi ont suivi. Et voilà, aujourd'hui, 2 ans après, on est une quinzaine de bénévoles. On a des locaux, on a différentes machines qu'on va voir là maintenant. Ça devient une belle association qui aide un certain nombre de personnes en situation de handicap. Comme beaucoup de Fab Labs, on a forcément des imprimantes 3D, mais on a différentes imprimantes 3D. En fait, on a des imprimantes 3D qui sortent du plastique fondu, en fait, et on fait couche par couche l'objet qui a été préalablement modélisé par ordinateur. Là, vous avez une grande imprimante 3D pour faire des grandes pièces, des orthèses, des choses comme ça, des prothèses. On a une autre imprimante 3D de plus faible capacité pour les petits objets, toujours avec du plastique fondu, et on a aussi une technologie d'imprimante 3D, mais résine. En fait, là, c'est pas du filament fondu, c'est un bac de résine liquide, et donc l'objet est créé dans la résine liquide, et ça permet d'avoir des objets extrêmement précis, mais vraiment, on peut imprimer quasiment un cheveu, et ça permet d'avoir des choses beaucoup plus précises que d'autres imprimantes plus classiques ne font pas. La seule inconvénient de ces imprimantes résine liquides, c'est leur format qui est réduit. Voilà, on ne peut pas faire des grandes choses, des grands objets, des grandes aides techniques avec ça. Moi, ce que j'ai souhaité sur tout l'ensemble des machines, c'est que, en fait, comme on accueille des personnes en situation de handicap et parfois déficient, on a besoin d'une sécurité accrue. Donc, toutes les machines sont carénées et dès qu'on ouvre une porte, elles s'arrêtent, en fait. Donc ça, c'était notre première machine, forcément en une imprimante filament, très classique pour faire un grand nombre d'aides techniques en général, en fait. Et puis après, on a besoin de la même, mais en plus grand format, etc. Et puis ensuite, on a eu besoin d'une imprimante résine pour des projets techniques, pour des structures culturelles en Mayenne, qui avait besoin d'un détail, en fait, en détail. Puis, bien sûr, la dernière machine qui est arrivée, c'est une découpeuse laser, en fait, nécessaire pour, en fait, c'est un laser qui découpe au micron ce qu'on souhaite, en fait. Ça fait vraiment des pièces extrêmement précises. Quand on reçoit une demande à un besoin, ou d'une entreprise, ou d'une structure, et qu'on n'a pas la machine, on investit dans la machine, et on répond aux besoins, en fait. Et on peut répondre à tous les besoins. On travaille le bois, le métal, le plastique, évidemment, le moulage, enfin tout, voilà. On a aussi un scanner 3D corporel. En fait, une personne qui a une pathologie particulière, on scanne le corps, on scanne la partie, la main, le pied, le genou, on peut. Et on reprend le fichier 3D du scanner et on adapte l'aide technique autour de ce scan, en fait. Donc après, on l'imprime ou on le découpe, on le fraise. Enfin, on a une fraiseuse numérique aussi. On a beaucoup de machines.
Et demain, on verra justement toutes ces différentes machines et tout le processus de fabrication entre le moment où la personne en situation de handicap arrive avec son envie, son besoin en tout cas, et la conception finale de l'objet qui lui permettra de mieux vivre au quotidien. Ça, ce sera dans l'épisode de demain. C'est la fin de notre émission L'Agité du Local pour ce lundi. À suivre à l'antenne à 19h, il y aura Solénoïde. Ce sera suivi à 20h de la discothèque de Morgane ce soir. Quant à moi, je vous souhaite donc une très bonne journée, un très bon après-midi, et je vous dis à demain.